des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
827-2346.
Hello. Et on retrouve Luc La Liberté. Salut Luc.
Oui, bonjour Geneviève, comment vas-tu?
Ça va très très bien. Écoute, on se parle de ces négociations pour relever le plafond de la dette aux États-Unis.
Ah, écoute, hein, nos auditeurs manquent sûrement pas d'occasion, que ce soit par l'interview, peu importe la plateforme, le journal, la radio ou la télé, oui, de constater à quel point le système américain est complexe et parfois, j'oserais dire, inutilement complexe. Ce fameux dilemme autour du plafond de la dette, ça n'existe qu'aux États-Unis. Donc, on s'est doté de cette mécanique-là, faut remonter très loin, hein, c'est centenaire et plus. En 1917, on s'est dit que ce serait un bon outil pour se discipliner aux États-Unis dans la gestion de nos dépenses, dans notre endettement. Finalement, ça n'a jamais servi à ça, puis on a toujours fini par augmenter le plafond de la dette. On procède à ces ajustements-là un peu partout dans les pays occidentaux là, qui ont des économies qui se ressemblent ou qui ont des affinités. Il n'y a qu'aux États-Unis où c'est devenu ce truc-là une arme strictement partisane, strictement politique. Donc, il y a plein de choses au plan économique qui se passent actuellement au Congrès américain. Il y a le plafond de la dette. Ce que ça vise à faire, c'est payer les factures de l'année dernière. Donc, c'est en rien lié, du moins pas directement, au budget qu'on est en train de voter aussi pour le fonctionnement de l'État américain. Les représentants démocrates et républicains, puis les sénateurs démocrates et républicains, ben, ils tentent actuellement de se prononcer sur les deux. On essaie de mettre de la pression les uns sur les autres parce que, entre autres, chez les démocrates, ce qu'on voudrait, c'est remonter le plafond de la dette, puis en même temps, entendons-nous sur le budget pour éviter que les services gouvernementaux ferment, comme ça s'est déjà produit. Et là, l'échéance est fixée au mois d'octobre. Là où on devine, où on sait que c'est un jeu qui est strictement politique, c'est que les républicains votent toujours avec les démocrates pour hausser le plafond de la dette et que les fameuses dépenses généreuses ou la dette qui est de plus en plus astronomique, donc les républicains y ont contribué largement avec les baisses de taxes du président Trump. Leader McConnell, le leader au Sénat des Républicains, sait très bien que les élections de mi-mandat approchent et ce qu'il veut, c'est laisser tout le poids, tout le fardeau de la décision du budget et de la dette entre les mains des démocrates. Donc, c'est presque grossier comme procédure. La plupart des gens se doutent que c'est ce qu'il essaie de faire, mais lui, l'an prochain, ce qu'il veut dire pendant la campagne électorale, c'est de la faute des républicains qui ont décidé seuls d'augmenter le plafond de la dette. Puis on a eu toutes les misères du monde à s'entendre avec eux sur le budget pour financer les opérations du gouvernement. Alors, c'est là où on en est. Sinon, pour nos auditeurs qui se disent oui, mais la dette américaine est énorme, ben, ce qu'on peut leur dire, c'est que la dette américaine, elle est énorme, oui et non. Est-ce qu'on s'attend à ce que les Américains manquent de créanciers demain matin pour financer des projets? Est-ce que leur situation est pire ou meilleure qu'ailleurs? Elle est encore préférable à bien des pays occidentaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de la dette, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a encore une marge de manœuvre pour financer un certain nombre de projets.
Oui, et là, Joe Biden aussi qui est dans l'impasse concernant la situation des migrants, les Haïtiens, oui.
Écoute, la situation des migrants, il n'y a aucun président qui s'en ressort grandi ou particulièrement glorieux. Là. Moi, dans les médias, je m'intéresse à la politique et je la couvre. Là. Je l'analyse depuis grosso modo, l'élection de George Bush la première fois. Il n'y a personne qui a de solution à court ou à moyen terme pour l'immigration. Joe Biden hérite de cette situation-là. Il lui dit déjà pendant la campagne électorale et dès son entrée en fonction au mois de janvier, moi, je vais gérer ça d'une façon beaucoup plus humaine. Et c'est ce qu'on attend encore de la part de Biden 8 mois plus tard. Il faut savoir que pour gérer la frontière, il y a des décisions qui relèvent de l'administration. Il y en a qui relèvent des élus du Congrès, puis d'autres qui sont toujours devant les tribunaux. Alors, M. Biden, sa marge de manœuvre, elle est somme toute assez restreinte, et il est quand même intervenu dans ce qu'il pouvait contrôler. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu ou si nos auditeurs ont bien vu les images qui circulent depuis quelques jours de la façon dont on a traité certains des migrants haïtiens.
Ça crève le cœur, là. C'est...
Ben voilà, écoute, on a l'impression de revenir à l'époque du mythe américain de la frontière, là, où c'est la loi du plus fort et c'est celui qui dégaine le plus rapidement qui s'en sort. Donc, on a vu ces cavaliers hein, de la police de la frontière aux États-Unis là, qui font la chasse aux migrants. Dans certains cas, on rapporte, c'est un journaliste qui témoigne des propos très durs, le recours au fouet pour être capable d'arrêter de contrôler certains des ressortissants haïtiens qui fuient.
Excuse-moi, là, juste dire, il y a des familles là-dedans avec des enfants. Là.
Voilà. Voilà. Donc, l'administration Biden n'a pas pu faire autre chose que de prendre acte de ce qui s'est passé. d'intervenir sur le terrain pour dire, écoutez, il n'y a pas juste une question d'image,
ben,
de politique
inhumain.
Internationale ou de politique intérieure, il y a une question de vie humaine, mais on peine à livrer la marchandise. Et il n'y a pas de façon pour l'administration Biden, même si moi je trouve qu'elle tarde à agir, il n'y a pas de façon satisfaisante d'intervenir pour éviter les critiques. Les plus progressistes disent, faut qu'on laisse entrer ces gens-là. On sait que c'est pas possible, on n'a pas nécessairement la capacité d'accueil, puis c'est même pas toujours dans l'intérêt des États-Unis de le faire. Il y a les modérés qui disent, oui, mais on vous a donné les outils nécessaires, puis les républicains qui n'attendent bien sûr que l'occasion de faire un peu de capital
non,
politique.
C'est terrible,
là-dessus.
Luc, puis tu sais...
Oui, tout à fait.
Ces gens-là, là, il y en avait un très, très grand nombre campés sous un pont. Des femmes qui accouchaient, Luc. Des gens qui s'évanouissaient à cause de la température. Vraiment, là, des conditions inhumaines. C'est une crise migratoire.
Et le nombre ne cesse de s'accroître.
Ils traversent par le fleuve, là. Hein? C'est pour ça, là, parce que ça a l'air drôle à dire, là, qu'ils arrivent par le Texas, en direct d'ailleurs ici, mais ils arrivent par le Del Rio. C'est tout ça. Je pense que c'est ça.
Ils arrivent par le Rio Grande, qui est la frontière ou la barrière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. Donc, on est vraiment dans des situations qui relèvent, à mon avis, le terme est dur, là, parce que ça implique un certain nombre de choses au plan légal, mais on est à la veille ou carrément dans une crise humanitaire. Et on peut pas rester insensible à ça, pas pour les gens qui sont là, ni bien entendu parce que tout se récupère là, ni au plan politique pour Joe Biden. Il doit livrer la marchandise beaucoup plus rapidement.
Bon, il y en a qui ont de la misère à décrocher. Dans vie, mon Luc, Donald Trump en fait partie. il démarre pas, là. Il veut encore faire invalider le vote géorgien.
Voilà. Ben écoute, ça fait partie. Il y en a peut-être qui vont être étonnés de m'entendre dire ça, mais ça fait partie d'une stratégie d'ensemble de Donald Trump et de ses partisans.
Mon Dieu.
Ce qu'on veut
Explique-nous
laisser.
Ça.
Voilà. Ce qu'on veut laisser durer aux États-Unis jusqu'aux élections de mi-mandat et idéalement jusqu'à l'élection présidentielle de 2024, ce qu'on veut laisser perdurer, c'est cette image qu'on a traduit par une expression aux États-Unis qu'on appelle le big lie, le grand mensonge. Grosso modo, il y a de la corruption au sein des institutions aux États-Unis et quand les démocrates gagnent, c'est parce qu'il y a de la triche. On vient de le dire pour la Californie parce que le gouverneur Gavin Newsom s'est sorti le vainqueur d'une procédure locale de destitution, là, ce qu'on appelle un recall, on en avait discuté tous les deux. Et Donald Trump revient cette fois-ci, lui, en Géorgie, en disant, il revient encore à la charge avec les autorités de la Géorgie pour dire, vous savez, l'élection 2020, il y a eu de la triche. Il faut rappeler qu'il y a eu un recomptage, on a donc compté les votes deux fois, il y a eu des recours devant les tribunaux, l'État, qui a une législation républicaine, a certifié le vote de 2020, et malgré tout ça, M. Trump revient, lui, en disant, je vous écris une très longue lettre dans laquelle je vous affirme qu'il y a eu de la corruption, qu'il y a eu de la triche dans
l'élection. C'est quoi Parce que là, il y a eu tout ça, là. Tu viens de nous le dire, là. On a quand même fait nos devoirs pour prouver à la population, tu sais, pour pas qu'il y ait une perte de confiance envers la démocratie, là. C'est assez fondamental. Merci, là. Quels sont les arguments de M. Trump pour persister, justement, et vouloir encore invalider ce vote-là?
Les arguments, en fait, ils sont très faibles, mais ils s'abreuvent, M. Trump, à la même source que tous ceux qu'on qualifie, là, c'est un grand parapluie, mais de complotiste. Il va chercher les sites les plus marginaux, les sites de propagande, et là, il va chercher toutes les thèses les plus folles pour tenter de dire, regardez, il y a des gens qui sont intervenus et qui ont manipulé des votes. Donc, il n'y a absolument rien de solide, et il n'y a même pas l'ombre d'une preuve. Puis ça, on l'a exposé en long et en large dans la multitude de recours qu'il y a eu devant les tribunaux. Il y a même des avocats de M. Trump, dont Rudy Giuliani, qui ont perdu leur licence, hein, leur droit de pratiquer à New York, dans le cas de M. Giuliani, puis dans la capitale nationale. Donc, on est vraiment en plein cœur du mensonge. Mais ça sert M. Trump dans ses intérêts immédiats, ses intérêts à court et à moyen terme, que d'entretenir cette idée. Et la stratégie que certains républicains ont décidé d'adopter, c'est même dans le recomptage ou dans le processus électoral...
J'ai de la misère à comprendre en quoi ça peut servir dans son image. Au contraire, j'ai l'impression que si j'étais un professionnel des relations publiques, je lui dirais de lâcher ce morceau-là un peu, là.
L'avantage qu'il en tire, c'est que si tu réussis à semer suffisamment le doute, et c'est exactement ce que j'allais te confirmer par la suite, c'est que ça te permet d'intervenir au niveau d'un État, parce que c'est pas le gouvernement fédéral qui fait les lois électorales. Quand vient le temps de gérer le dépouillement du vote, ça se fait au plan local, dans l'État. Et on s'est rendu compte que dans des États républicains, et là c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, on est en train de politiser des fonctions qui étaient jusqu'à maintenant neutres au moment des élections. Donc en fait, on est en train de planter les graines d'une éventuelle ou d'une possible corruption électorale. électorale parce que ce seraient des partisans politiques républicains.
Ben, puis là, on vient jouer dans les peurs fondamentales des Américains, la méfiance envers leur système politique. Donc, c'est quand même des paupières pitons sur lesquelles appuyer. Merci, Luc, la liberté.
Un grand plaisir. Bye-bye.